Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et je t'accompagne chaque semaine dans ton aventure indépendante au travers de contenus et d'expériences pédagogiques pour que tu progresses sur tous les pans de ton activité. Dans l'épisode du jour, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Cugnot sur le podcast. Il faut savoir que la première fois que j'ai croisé Isabelle, c'était sur LinkedIn. Et j'ai très rapidement compris que ce n'était pas du tout un hasard que je la croise sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, puisque c'est son expertise à elle. Une experte des réseaux sociaux. Et quand j'utilise le mot expertise et experte, ce n'est pas un hasard non plus. Alors, t'as sans doute vu passer de nombreux conseils sur les réseaux pour développer ton activité indépendante, qui t'invite à te positionner comme l'expert d'un sujet ou d'un autre, en choisissant une niche, un sujet bien précis, restreint, pour que tu puisses te différencier. Et j'ai déjà parlé sur le podcast par le passé du fait que ce positionnement d'expert, il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise avec. Mais aujourd'hui, avec Isabelle, j'avais envie de creuser plus loin sur ce sujet du positionnement de l'expert. Et c'était la parfaite candidate pour le faire. Isabelle a une réelle renommée sur son sujet, qui est un sujet assez vaste, les réseaux sociaux, mais son expertise est très bien assise, notamment grâce à des arguments d'autorité et de légitimité très forts. Et dans cet épisode, on décompose justement la manière dont elle a construit ce positionnement d'experte, les expériences et les expérimentations qu'elle a eues dans le temps, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a vu sur ce sujet des réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, elle peut se positionner en tant qu'experte. On parle aussi de comment elle s'est forgée cette légitimité en décortiquant tous les différents arguments d'autorité qu'elle affiche sur son site, dans sa bio, dans ses présentations, etc. Et du coup, de l'impact que cela peut avoir sur son activité indépendante. Bref, on a retourné le sujet dans tous les sens et c'est très riche comme échange. Je te laisse te plonger dedans tout de suite et on se retrouve tous les deux à la fin pour la petite outro. Bonne écoute à toi et à tout à l'heure. Ciao. Bienvenue sur le podcast, Isabelle. C'est bon ?
Merci. Oui, c'est bon, je t'entends bien.
Cool. Techniquement, tout est bon. Je suis ravi de t'accueillir. Comme on se disait juste avant de commencer, ça fait quoi ? Ça fait plusieurs mois, 6 mois peut-être même qu'on s'était dit « Ouais, faut qu'on fasse un épisode » et bon, on y arrive maintenant, quoi.
Ça fait 6 mois. Enfin, bah ouais,
fin d'année.
Quelle
année folle, surtout. Je pense que ça a forcément quelque chose à voir là-dedans aussi, quoi.
Ouais, clairement. En tout cas, c'est...
Ouais, bah ouais. Et je sais que ça fait changer pas mal de choses pour tous les deux. On en reparlera sûrement tout à l'heure. Mais on va rentrer par la première question rituelle qui revient un peu aux sources. J'aimerais savoir, Isabelle, comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Alors, pourquoi je suis devenue indépendante? À la base, je pensais pas forcément le devenir. J'étais en master, j'ai fait une alternance. Je suis rentrée sur le marché du travail, j'ai fait 3 CDD. Mais à chaque fois, j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie dans mon travail. Et pourtant, j'ai vraiment tout essayé. Hein. J'avais des super conditions de travail, j'aimais mon métier, j'avais des bons collègues. Enfin, vraiment, tout allait bien. Mais j'étais pas épanouie. Il y avait toujours un truc qui clochait. Et en fait, au bout de quelques années quand même, j'ai réfléchi grâce à des lectures et à des vidéos. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas un problème de métier, mais c'est un problème de statut. J'avais trop envie d'avoir plus de liberté. Et vraiment, le mot liberté, c'est le mot phare. Pour moi, c'est un peu mon mantra, quoi, liberté, en tout cas professionnellement. Et donc voilà, j'avais besoin d'avoir une liberté de lieu aussi, de choisir le lieu où je travaillais. Ça paraît tout bête, mais moi, j'étais vraiment pas heureuse à l'idée d'aller au même endroit tous les jours, un endroit que j'avais pas forcément choisi. Je suis très sensible à l'environnement. Donc voilà, et puis surtout, j'avais envie et besoin même de tout gérer de A à Z. Donc le freelancing et puis l'entrepreneuriat aussi, quoi, tout simplement.
Ouais. Est-ce que tu étais en poste avant, c'est ça ? T'étais en poste avant, c'est ça ?
Ouais, j'étais en poste. J'étais en alternance. J'ai eu des propositions de CDI que j'ai refusées. Donc déjà, c'était un signe, déjà. J'avais pas du tout envie d'être en CDI. Ça me faisait très peur. Je me disais, oh là là, non. Et j'ai choisi à chaque fois des CDD d'un an. Je trouvais ça très bien, très pratique, parfait. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans dans des entreprises différentes. Une entreprise d'expertise comptable où j'étais chargée de communication digitale. Une école de l'enseignement supérieur qui était l'école des mines à Nantes. Et puis, où j'étais responsable pareil marketing digital. Et puis après, j'ai travaillé pour mon compagnon, qui travaille dans l'investissement dans l'or et les métaux précieux. Et là, pareil, j'étais responsable de la communication pendant 1 an. Et je travaillais de chez moi. Donc là, ça y est, on commençait à rentrer dans un truc un peu plus libre. En plus, je travaillais avec mon compagnon. Donc génial. Enfin voilà, j'adorais mon patron. Et pourtant, ça allait toujours pas. Il y avait toujours un truc qui clochait. Et en fait, j'avais besoin de tout gérer de A à Z, quoi. J'avais trop envie de me lancer, quoi. J'étais un peu fascinée par l'entrepreneuriat. Je lisais plein de choses dessus. Enfin, c'était déjà à l'époque.
C'était quoi?
J'étais déjà à fond dedans.
Ouais. Et c'était quoi, du coup, tes influences à l'époque? Parce que tu l'as dit juste avant aussi, tu disais, ouais, je regardais des vidéos, je lisais des livres, des choses comme ça. C'est quoi les influences, ce qu'on en a tous, je pense, des influences différentes qui nous poussent à nous dire, OK, moi aussi.
Ouais, ben, à l'époque, j'avais tapé freelance sur Google et sur YouTube. Et qui ressort énormément sur ce mot-clé-là, c'est aussi Yann Le Nain. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Ouais. Ouais.
Donc, je regardais des vidéos et lui, c'est vraiment celui qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait le faire, que c'était concret, que voilà, qu'on pouvait se lancer. Y a aussi des personnes comme David Laroche qui sont dans le développement personnel, qui ont eu des phrases qui ont fait un petit déclic en moi et qui je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Et puis après c'est des livres aussi. Y a un livre qui m'a beaucoup plu à l'époque, qui m'a vraiment fait le déclic. Il s'appelle Wake Up. Il est pas très connu. Il s'appelle Wake Up, arrêtez de vivre votre vie à moitié endormie, de Christine Newicki. Et c'était une époque où je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que de 1, je voulais me lancer en tant que freelance. Et de 2, je voulais être consultante dans la stratégie social media. Enfin, ça m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais faire. Voilà.
Super intéressant. C'est cool de voir aussi la naissance, entre guillemets, parce que c'est un truc que je voulais explorer avec toi. Aujourd'hui, quand on regarde ta présentation sur LinkedIn, ton site, ce genre de choses... T'as un positionnement d'experte super bien assis sur ton sujet de la stratégie social média, notamment avec pas mal d'arguments d'autorité forts. J'avais envie de les décortiquer après, mais je veux bien savoir, est-ce que déjà ce positionnement-là de l'expertise sur ton sujet, est-ce que tu t'es lancé directement avec ça, basé sur ton expérience en poste, en CDD par exemple, ou c'était différent au début? Je veux bien savoir.
Alors, le côté expert, oui, il est venu assez vite. En fait, il est venu quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Donc, 9 mois avant d'arriver sur le marché du travail, j'étais en alternance et j'ai découvert Twitter. Et je voulais trouver un emploi. Et j'avais pas de réseau du tout, aucun réseau. Et je voulais travailler à Nantes. Je venais de Vendée. Et je voulais absolument vivre et travailler à Nantes. Donc, j'ai décidé d'aller à fond sur Twitter. Et à l'époque, je me positionnais plutôt comme passionnée. Passionnée par le social media, passionnée par la communication. Et en fait, d'ailleurs, c'était plutôt par la communication à l'époque. Et en fait, à force d'utiliser Twitter et de voir grandir ma communauté, etc., c'est là-bas où j'ai ma plus grosse communauté, au final, elle est sur Twitter. À force d'avoir fait ça, je me suis formée toute seule aux réseaux sociaux et j'ai commencé à être passionnée par le sujet. Et c'est là où j'ai commencé peu à peu, un peu malgré moi, à me positionner en tant qu'experte, parce qu'à chaque fois que je trouvais un emploi, à chaque fois, les entreprises venaient à moi grâce à mon compte Twitter et elles me demandaient vraiment une expertise social media. Donc ça s'est fait. L'expertise s'est fait assez naturellement, ce positionnement-là. Après, le positionnement stratégie consultante, ça s'est fait au fur et à mesure. L'offre, en tout cas, s'est construite au fur et à mesure. Ça pas à ça, mon offre, à la base.
C'est intéressant. J'avais lu cette histoire-là justement de Twitter tout à l'heure quand je préparais l'épisode. Je suis allé sur tes articles sur BFM et je suis tombé sur celui où tu racontes cette histoire de Twitter et ça m'a fait sourire parce que moi aussi, je pense le premier déclic de la puissance du contenu et des réseaux, c'était avec Twitter et c'était pareil. J'étais en alternance, je cherchais une alternance, je cherchais ma deuxième alternance et j'avais fait une campagne un peu personal branding autour de moi sur Twitter. Où j'allais alpaguer des agences et tout, et j'avais eu du coup une agence qui m'avait contacté sur Twitter pour ça, et j'étais allé là-bas pour gérer leur compte réseaux sociaux. Du coup, ça m'a fait rire de me dire putain, c'est fou.
Mais c'est Twitter, c'était trop bien à l'époque. D'ailleurs, je me suis remise dedans parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière que je publiais bientôt, et c'était trop marrant en fait. Twitter, c'était avant LinkedIn en fait, avant LinkedIn entre guillemets, tout le monde était là-bas, toutes les entreprises, les entrepreneurs, et c'est trop marrant. Moi, j'aimais bien.
C'est clair. Et moi, ce que je trouvais fou à l'époque, et je pense que c'est encore le cas sur pas mal de réseaux, surtout quand on passe dans la catégorie créateur de contenu, mais à l'époque, t'étais même pas forcément obligé de créer beaucoup de choses, c'était la capacité à rencontrer n'importe qui.
Ouais, tu c'était vois ça.
Et Twitter, c'était fou pour ça.
C'était ça. Moi, ça m'a rendu dingue. On pouvait rencontrer n'importe qui. On s'accassait absolument toutes les barrières. Même sans aucun réseau, on pouvait se créer un réseau. Et comme tu le disais, on créait pas. Moi, personnellement, je créais pas de contenu. Je faisais que partager du contenu. Que partager des articles que je trouvais intéressants. C'était vraiment de la veille. C'était presque un travail de journaliste de veille, quoi. Vraiment.
Hyper intéressant. Et du coup, c'est ça, du coup, ce côté, veille, recherche, partage, centralisation de plein de données différentes autour d'un sujet qui a fait que de plus en plus les gens prêtaient attention à ce que tu faisais.
Ouais, mais complètement en fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai toujours été passionnée par le journalisme. Je voulais être journaliste pendant un bon moment et finalement j'ai utilisé toutes les techniques que j'avais apprises en licence à l'époque de journalisme justement. Enfin, j'étais en licence infocom et j'avais pris toutes les spécialités journalisme. Et oui, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai réussi à me créer une sorte de communauté, parce que tous les jours, je sélectionnais le meilleur article, vraiment la meilleure actualité dans le domaine de la communication, enfin la meilleure selon moi, et je la publiais, je la partageais, et j'essayais toujours d'avoir la nouveauté, tu sais, de vraiment l'actualité le plus rapidement possible, et parfois je partageais l'actualité avant même que le journal le publie lui-même. Du coup, je le partageais vraiment pour être vraiment au taquet. Enfin, c'était très drôle. C'était rendu journaliste. J'étais vraiment à fond sur l'instantané pour le coup.
C'est intéressant ça. Parce que tu vois, c'est la raison pour laquelle je te posais cette question sur le positionnement, genre expertise. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent à leur compte qui se sentent peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir. Que les gens qui abordent ce positionnement de dire voilà, moi je suis expert sur tel ou tel sujet, souvent on commence justement par une phase de deep dive où on explore, on creuse. Tu parlais de passion et je pense que ça va avec ce côté de t'aller creuser partout pour trouver toutes les infos et les repartager, et c'est ça qui construit ton expertise avec le temps en fait.
Ah, ben, complètement. Et si jamais il y a des personnes qui osent pas trop se positionner en tant qu'expert au début, moi c'était pareil, hein, je n'utilisais pas le mot expert, j'utilisais le mot passionné, je trouvais que ça passait mieux justement. Et il faut aussi se dire qu'il y a forcément des gens, et il y a des gens qui me l'ont dit droit dans les yeux, qui m'ont dit, mais toi, de toute façon, tu peux pas être experte ni consultante à, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, 20, 25 ans, quoi, c'est pas possible, enfin, tu peux pas faire ça. Mais en fait, il faut pas les écouter, voilà, c'est ça, là, j'ai compris. Et c'est aussi se dire qu'on est expert à partir du moment, j'avais lu ça quelque part, je trouvais ça génial, par contre, je sais pas qui a dit ça. On est expert à partir du moment où on en sait plus que la personne en face de soi. J'adore cette phrase, c'est génial. Mais en même temps, c'est un peu vrai. À chaque fois que j'arrivais dans une entreprise, on me mettait la casquette. Ok, toi, t'es l'experte social media, t'es celle qui s'y connaît en réseaux sociaux parce que les autres ne s'y connaissaient pas tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, oui, je me suis positionnée en tant qu'experte, mais vraiment petit à petit. Ce mot-là, experte, maintenant, je l'utilise beaucoup plus facilement parce que ben, j'ai de l'expérience et je connais vraiment par cœur mon métier, mais c'est vrai qu'au tout début, on n'ose pas forcément trop.
Ouais, mais c'est hyper intéressant ce point de vue de se dire qu'en fait c'est relatif dans le sens où tu as toujours quelqu'un qui est plus expert que toi finalement presque. Et
Bah,
du
bien
coup
sûr, enfin,
ça dépend que de
100%.
la personne en face. Ouais, c'est hyper
Complètement.
intéressant.
Mais pour moi, c'est pas une course. Et ce mot-là, expert, faut arrêter d'en avoir trop peur et il faut arrêter de critiquer les gens qui l'utilisent, etc. Enfin, pour moi, le mot expertise, c'est vraiment simplement, on connaît énormément notre sujet au point de pouvoir aider des personnes qui connaissent moins de choses dessus, quoi, tout simplement. Enfin, voilà.
Je pense qu'une des choses qui du coup défend super bien le fait qu'aujourd'hui ce soit très logique pour toi ce positionnement d'experte, c'est les arguments d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Notamment, je disais, je suis allé lire un de tes articles sur BFM. Je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais t'es chroniqueuse sur BFM Business pour écrire des articles sur le sujet. Alors je sais pas si c'est encore hyper régulier comme ça l'était. Je sais que l'année dernière t'en as écrit beaucoup. J'aimerais bien savoir, du coup, d'où ça. C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est quoi l'histoire derrière le fait de devenir chroniqueuse sur BFM Business? Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est une super carte de visite qui te donne beaucoup de légitimité. Comment ça a
Ouais, c'est
commencé?
super. C'est trop bien. Ça, c'est drôle, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que le journalisme me court après. Mais je suis trop contente de pouvoir garder un pied là-dedans, parce que j'adore ça. Et en fait, comment ça m'est venu? J'ai pas du tout cherché. En fait, je savais même pas que c'était possible d'être chroniqueuse sur BFM Business, d'écrire des articles, tout ça. Et je me disais aussi, et c'est un petit peu vrai, c'est un petit monde. Là, c'est un petit monde assez fermé, tout ça. Hein. À Paris, notamment, c'est un monde un peu fermé. Donc voilà, je ne m'étais absolument pas posé de questions là-dessus. Et en fait, j'étais simplement dans mes petites affaires. J'étais en train de sortir des vidéos social media. Et j'ai sorti des vidéos en mi-janvier 2018 sur LinkedIn. Et c'était notamment pourquoi utiliser Instagram quand on est une entreprise, pourquoi utiliser LinkedIn quand on est une entreprise. J'ai sorti 4 vidéos comme ça. Et ça a plutôt bien marché sur LinkedIn. Franchement, c'était fou à l'époque. Enfin, je n'en revenais pas d'avoir fait autant de vues. C'était beaucoup pour moi. J'ai fait pas mal de vues. Et en fait, ça a tourné, cette vidéo, elle a tourné et elle est arrivée sur le fil d'actualité du responsable, enfin du rédacteur en chef de BFM Business. Et en fait, il m'a repéré comme ça et il m'a contacté. C'est tout. Fin de l'histoire. Non, par contre, il a quand même regardé ce que, bon, c'est pas si simple non plus, mais je pense qu'il a quand même regardé énormément ce que je faisais sur Internet. Et déjà, à l'époque, j'avais une grosse présence sur Twitter, déjà. J'avais une grosse présence en ligne en règle générale. Je venais de lancer une chaîne YouTube justement avec ces vidéos-là. Donc il a vu un petit peu ce qui me plaisait, de quoi j'étais entre guillemets capable, et ça lui a plu. Puis c'est vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose parce que il n'est pas resté très longtemps là-bas, mais voilà, c'est une personne qui m'a repérée très rapidement et qui m'a dit voilà, j'ai envie d'une bouffée d'air frais entre guillemets, de quelque chose d'un petit peu nouveau et d'une personne qui n'est pas forcément sur Paris, d'une personne qui n'est pas forcément dans le journalisme et qui est prête à écrire un article par semaine pendant minimum 1 an. Et voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. J'ai dit oui. Parce que je me suis dit en effet qu'en termes de cartes à jouer comme ça, en termes de notoriété, c'est vraiment puissant, je trouve en tout cas.
Ouais, c'est clair. Ça t'apporte quoi du coup justement aujourd'hui, par exemple, le fait que tu puisses avoir cette carte de visite-là?
Je pense que c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais je suis une jeune femme et c'est plutôt, ça ajoute un truc en plus, on va dire, ça permet de convaincre, ça permet d'inspirer encore plus confiance. vraiment pour moi c'est ça, ça inspire confiance, la carte BFM Business, ça fait sérieux, ça fait vraiment expert pour le coup, surtout qu'ils sélectionnent qu'un expert en France dans des domaines différents, donc c'est pas, normalement c'est pas donné à n'importe qui, donc voilà, on est, enfin normalement c'est mérité, et donc je pense que c'est un élément d'autorité, c'est, pour moi c'est vraiment ça que ça m'apporte, c'est surtout ça permet d'inspirer confiance, ça me ouais. permet d'avoir quelques clients qui me trouvent aussi grâce aux articles de BFM Business. Voilà, ça me permet tout ça, je dirais.
Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense... Vas-y, pardon, tu allais dire quoi? Tu penses quoi?
Bah, c'est génial, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est ça aussi que ça m'apporte, c'est que ça m'éclate et c'est trop bien de pouvoir aller au siège social de BFM Business à Paris. Enfin, c'est pareil, ouais. Mais c'est trop bien.
tu joues à la journaliste, ouais.
Ouais, j'adore.
Est-ce que du coup, ça... Ouais. Est-ce que ça dépend des clients, du coup, justement? Parce que je me dis, tu vois, BFM Business, en perception, c'est pas la même chose pour tout le monde. Mmh. Et il y a sûrement des gens à qui ça parle plus que d'autres. Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était plus à ton service pour une cible particulière, notamment les grands comptes, ce genre de choses?
Ouais, bah oui. Je pense que... Je réfléchis, mais j'ai pas vraiment fait le calcul là-dessus, mais je pense que les clients que j'ai eus là, avec BFM Business, c'était aussi... c'était surtout des grands comptes. Ouais, c'est surtout des grands comptes, je dirais. Des grands comptes ou des PME aussi.
Okay.
Ouais, plus que peut-être des freelances. C'est vraiment plutôt des entreprises déjà bien développées.
Ouais, et des personnes pour qui, j'imagine, BFM Business s'est perçu un peu comme une référence sur le sujet, quoi.
C'est ça. Et d'ailleurs, si, il y a quand même quelque chose aussi qui fait vraiment la différence, c'est pour les conférences. Je remarque que c'est vrai que c'est un élément qui intéresse ceux qui organisent des conférences. Voilà, ça, c'est une carte aussi à jouer pour eux en termes d'image. Donc, je pense que ça joue pas mal là-dessus aussi.
Mm. Ouais, c'est intéressant. Parce que j'allais justement venir sur le deuxième argument d'autorité plutôt fort que tu as, qui assoit ton positionnement d'experte que j'avais noté et dont on a parlé avant d'enregistrer. C'est, tu dis, dans les 1 à 2 dernières années, tu as donné plus de 800 heures de formation et de conférences sur ton sujet des réseaux sociaux, ce qui est effectivement énorme. Et justement, ça aussi, tu vois, c'est quand on le lit, on se dit pour être autant demandé, tu vois, genre 800 heures, on se dit ça veut dire que Isabelle, elle est hyper demandée, et aussi l'expérience que ça donne de faire 800 heures de formation et de conférence sur un sujet, clairement, elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Et du coup, ça renforce, j'ai encore l'impression, encore plus ce positionnement.
Ouais, complètement. Franchement, il n'y a pas de secret. La clé, je pense, pour vraiment réussir et puis surtout aller de plus en plus haut, c'est l'expérience. Donc les deux premières années, j'ai vraiment accepté beaucoup de choses et mon but du jeu, c'était d'avoir le plus d'expérience possible, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des périodes un peu de surmenage, on va dire.
Ouais, on en parlait avant.
J'ai eu plusieurs fois des problèmes. En fait, moi, ça se voit quand je perds ma voix. Mais littéralement, je suis aphone. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avant le confinement. J'ai été aphone pendant 8 jours. Pendant 8 jours, il n'y a aucun son qui ne sortait de ma bouche. C'est énorme, 8 jours. C'était long.
Wow.
C'était long. C'était impressionnant. T'as l'impression qu'elle ne va jamais revenir, ta voix. Bref, donc ouais, j'ai accepté beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai suivi le conseil de mon compagnon qui m'a toujours dit... qui est chef d'entreprise en fait depuis 10 ans, donc je l'écoute quand il me donne des conseils. Il m'a dit voilà, plus tu prends de l'élan, plus tu vas aller loin. Donc prends d'élan, et prendre d'élan, ça veut dire bosse en gros, quoi. donc voilà, au début j'ai accepté plein de choses, plein d'heures de cours, de formation et tout, pour aller le plus loin possible et puis surtout pour m'entraîner. Et je pense que j'aurais pas été capable de donner des conférences devant 700 personnes, 600, 700 personnes si j'avais pas donné tous ces cours là.
Voilà, ouais, c'est
ça
clair.
Permet vraiment de se sentir mieux aussi, d'avoir un peu plus confiance en soi. Et voilà, vraiment la clé, c'est l'expérience, je pense.
Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, comme je travaille beaucoup sur des sujets de pédagogie pour les gens qui écoutent ce podcast et pour ma communauté d'indépendants en général, j'adore réfléchir à ces sujets de comment tu fais, j'appelle ça des expériences pédagogiques où les gens vont plus apprendre. Et du coup, dans mes recherches, je suis tombé sur des études ou des apprentissages sur le fait que finalement les personnes qui apprennent le plus, c'est les personnes qui transmettent. Et du coup, tu vois, presque de donner des cours, tu te rends compte, avec tous ces cours, tu t'apprends encore mieux ce que tu fais déjà et la raison pour laquelle tu donnes des cours, parce que t'es obligé de structurer, t'es obligé de passer du temps à rechercher, à trouver des exemples et machin, et au final t'apprends en le faisant, quoi.
Ah ouais, mais tellement. Mais j'en parlais avec un ami qui donne des cours aussi dans l'enseignement supérieur et ça nous faisait tellement sourire à chaque fois. On se disait, mais en fait, on se rend pas compte, mais les gens nous payaient pour donner des cours, mais ils nous payaient finalement à que nous aussi on se forme et qu'on apprenne plein de choses et on apprend aussi au contact des élèves. Donc on était trop contents, quoi. C'est vrai que c'est génial.
Ouais, c'est intéressant.
Et pareil pour les formations, pareil pour les conférences. Moi, c'est ça que j'adore. J'adore apprendre. Donc c'est vrai que c'est génial. On est payé à apprendre. C'est cool.
Ouais. Surtout quand tu peux donner des, dans le cadre de la formation supérieure, comme tu disais que c'était ton cas, dans des écoles, etc. Mmh. Et je me dis, du coup, tu vois, la réflexion qui me vient là, je me dis, c'est presque, du coup, un passage intéressant pour n'importe quel indépendant de se dire, pour progresser sur mon sujet, et en fonction des clients que je cible, avoir l'argument d'autorité de, bah, je suis aussi formateur, soit dans l'éducation, soit pour des entreprises. De passer par un axe formation, je me dis c'est presque intéressant pour n'importe quel indépendant, peu importe le sujet en fait.
Bah, je pense que c'est en effet hyper intéressant dans le sens où ça peut nous apporter énormément. Par contre, ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde, donc faut tester.
Complètement.
Mais en plus, il y a souvent des écoles qui recherchent des freelances juste pour, je sais pas, 3, 6 heures, 9 heures de cours maximum dans l'année. Donc en fait, on peut tester comme ça en faisant du one shot et voir si ça nous plaît. Bah, faire des workshops, quoi, ce qu'on appelle des workshops, c'est vrai que c'est un bon moyen de tester, parce qu'il faut tester, parce que je pense que, enfin, pour avoir vu des freelances un peu se casser la gueule dessus, faut que ça plaise, en fait, parce que c'est
complètement
un boulot, mais c'est un énorme boulot.
Et je pense qu'il y a une fibre, comme tu dis, ouais.
Ouais, aussi, ouais. Ouais, je pense que c'est aussi une fibre, c'est un truc qui nous plaît ou qui nous plaît pas, et si ça nous plaît, forcément, ça va bien se passer, si ça nous plaît pas, ça va se ressentir, et ça risque d'être un peu compliqué, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant effectivement à tester parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, tu vois, la case formation dans leur tête, ils la bloquent en mode « Ah non, mais moi, je peux pas donner de formation, genre, on m'a pas formé à ça, je sais pas faire, j'ai jamais fait, etc. » Alors que c'est un truc qui leur plairait, tu vois.
Mais carrément. Ah ouais, par contre, ça, c'est vrai. Hein. Totalement. Moi, personnellement, ça m'a fait sourire quand on m'a fait confiance pour la... En fait, j'ai eu cette opportunité de donner des cours, je l'ai eu complètement par hasard. Et à l'époque, je me lançais, donc j'avais besoin aussi... Enfin, c'était vachement rassurant pour moi d'avoir un salaire, tout simplement, qui tombait tous les mois sur 6 mois. C'était vraiment confortable pour moi. Et puis surtout, ça m'a vachement intrigué. Je me suis dit, ça se trouve, ça va me plaire, on ne sait pas, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a fait confiance un peu comme ça. Je ne savais pas du tout donner des cours à l'époque, hein, et j'ai appris sur le tas. Et ça s'apprend et ça se fait, quoi. Franchement, et ça peut être génial. Enfin, moi, je me suis éclatée. Personnellement, c'était trop bien.
Cette opportunité, elle vient aussi d'une rencontre sur les réseaux, via le contenu que tu partageais ou quelque chose comme ça?
Je réfléchis. Non. Alors, c'est un contact aussi. En fait, quand je me suis lancée, j'ai fait du bruit autour de moi. j'avais aucun contact, donc j'ai utilisé mes contacts perso et j'ai dit à tout le monde, j'ai envoyé un énorme mail à tout le monde en racontant un peu ce que je vivais et que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai vraiment secoué les gens pour trouver des clients. j'ai eu une amie qui m'a mis en contact avec un gars qui est venu m'aider pour fixer mes tarifs. Donc c'était encore une autre histoire, c'était un freelance en fait qui est venu m'aider alors qu'il ne me connaissait pas du tout pour fixer mes tarifs. Et 6 mois après, c'est lui qui m'a donné cette opportunité. Donc, c'est du hasard, quoi, franchement. Ouais, mais c'est mais... du hasard, et en même temps, c'est quand même... voilà, on se bouge, on essaie de faire bouger le peu de réseau qu'on a.
Complètement.
Et on rencontrer des gens aussi. Enfin, au tout début, j'allais rencontrer des gens que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vus, et puis je les rencontrais juste comme ça, autour d'un café. Il faut pas hésiter, quoi. Je pense qu'il faut pas hésiter à bouger.
C'est clair.
Il y a de se bouger.
Mais tu vois, il y a un des épisodes du podcast, c'était dans, je crois que c'était dans la première saison, je discutais avec Leïla Hadouche, qui est aussi quelqu'un du monde des réseaux sociaux et consultante social media à Paris. Et Leïla, elle disait une phrase que j'ai beaucoup aimée, elle disait, on ne quémande pas du travail, ça n'existe pas de quémander du travail. Et elle disait la même chose sur le mail de lancement. Et moi, c'est un truc que je recommande effectivement à beaucoup d'indépendants qui se démarrent, c'est... T'écris un gros mail à 50 ou 100 personnes que tu connais, des amis, les gens de ta promo, enfin, ton oncle, ta tante, le boulanger du coin de la rue, enfin, bref, tous les gens qui sont autour de toi, en disant, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà des exemples, voilà les gens avec qui j'ai envie d'être en contact pour potentiellement travailler. Est-ce que t'en connais? Est-ce que tu peux envoyer ce mail à quelqu'un d'autre? Et on sait pas ce qui peut se passer, mais ça peut être incroyable, quoi. Il faut pas avoir honte de ça.
Non, faut pas avoir honte. Bah, franchement, d'ailleurs, c'est, je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment, entre guillemets, fait quelque chose d'aussi direct, parce qu'après, j'ai que produit du contenu sur les réseaux sociaux pour m'attirer des clients. Mais là, au tout début, de toute façon, il fallait bien commencer par quelque part. Et d'ailleurs, c'était même pas une demande. Je crois que j'étais simplement en train de raconter. Je disais juste, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat. Voici mon site. Allez, salut. Et après, les gens disent, et puis, ouais. Il y a des gens quand même qui m'aiment bien, donc qui m'ont dit, allez, je vais peut-être la mettre en contact avec quelqu'un. Mais ouais. On n'est pas obligé de demander aussi, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de poser une question à moi, s'il vous plaît, donnez-moi des clients. Non, non. On peut juste annoncer comme ça, tout naturellement, de manière totalement naïve, à tout le monde qu'on se lance.
Ouais, ce qui est une forme de contenu presque finalement. Genre, tu documentes ton voyage et c'était ta première communauté, entre guillemets.
Bah, franchement, ouais, carrément. C'était ma toute première communauté, mes proches.
Ouais, et qui est devenue du coup maintenant, et c'est le troisième argument d'autorité sur lequel je voulais revenir, qui est un peu affiché sur tes présentations, etc. Où tu parles du fait que sur l'ensemble de tes réseaux sociaux, aujourd'hui, tu regroupes à peu près 40 000 personnes. Je sais pas si c'est le bon chiffre parce que je crois que j'en ai vu à différents endroits, mais il me semble que c'est le bon.
Je sais plus.
Potentiellement. 35 000, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, j'ai vu ça dans une de tes descriptions. Et ça aussi, je trouve c'est un argument d'autorité fort, surtout sur ton sujet où tu dis, bah voilà, moi, je vais accompagner dans votre stratégie réseaux sociaux et que tu sois allé capter ce chiffre-là pour le mettre en avant dans ta présentation. Bah, je trouve ça aussi, ça ancre ton positionnement d'expertise, quoi.
Bah, c'est le but, c'est vrai que comme je suis dans les réseaux sociaux, le but du jeu c'est aussi de montrer que je suis capable, entre guillemets, de créer des communautés. Donc voilà.
C'est le meilleur, c'est le meilleur exemple de ce que tu fais finalement, quoi.
Ben ouais, enfin franchement, je pense que c'est ce que je conseillais tout le temps à mes étudiants. Je donnais des cours à des futurs community managers, je leur disais, mais honnêtement, montrez ce que vous êtes capable de faire. Donc publiez des choses sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, bougez-vous.
C'est vraiment c'est clair.
Et pareil, parce que, en gros, enfin, montrer vraiment ce que vous êtes capable de faire.
Comment t'as fait, c'était quoi ta réflexion de la manière dont tu te présentes, justement? Comment, parce que j'imagine qu'il y avait une réflexion derrière de se dire, je vais aller chercher les bons facteurs, entre guillemets, les bons arguments d'autorité, comme on disait avant, pour te présenter. Et c'est quoi ta réflexion derrière? Est-ce que c'est un truc que t'as vraiment pensé en te disant, ok, je vais... Ça justifie bien ma posture et mon positionnement.
Honnêtement, très sincèrement, je l'ai fait naturellement. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai écrit un peu d'une traite, mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait inspirer confiance. En fait, c'est toujours cette notion de confiance que j'essaie de mettre en avant. Je suis sur Internet pour ça, pour inspirer confiance, pour que les gens ils me connaissent, qu'ils arrivent à voir qui peut être Isabelle Couillot, et surtout qui arrivent à me faire confiance. Et donc je me suis dit, voilà, quels éléments peuvent inspirer confiance et peuvent vraiment faire un peu mouche, entre guillemets. Et le but du jeu, c'est aussi d'utiliser des éléments un peu différents. En effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, BFM Business, ça a parlé à certains, mais il y en a d'autres, ça n'a pas du tout leur parlé. Mais par contre, peut-être que le fait d'avoir des abonnés, ça va peut-être plus leur parler, là, pour le coup. Enfin, voilà, j'essaie d'avoir des éléments un petit peu différents pour plaire, entre guillemets, à tout type de personnalité. Voilà. Ouais. Et puis, c'est l'idée aussi d'accumuler quand même 3-4 trucs, parce que sinon, ça fait un peu court.
Bien sûr.
J'ai essayé d'en trouver un certain nombre, mais sans forcément trop en mettre non plus, quoi. C'est pas exercice.
Ouais, mais je le trouve intéressant, cet exercice, de se demander effectivement, en fonction de qui sont les gens avec qui j'ai envie d'être en interaction, qui sont les clients que je cible, qu'est-ce qui, pour eux, dans leur perception, on parlait tout à l'heure de la relativité de « on est tous l'expert de quelqu'un », pour la personne en face de toi, qu'est-ce qui pourrait leur inspirer confiance dans ton expertise sur ton sujet ou dans tes compétences, quoi.
Ben c'est ça, et il faut vraiment penser à tout le monde. C'est-à-dire que personnellement, moi ce que j'adore voir, c'est des gens qui ont de l'expérience aussi. C'est un truc moi qui fait que je vais avoir confiance en la personne. Donc ça je l'ai mis aussi, mais il y en a pour d'autres ils s'en fichent, quoi. Pour d'autres ça va être plutôt la carte BFM ou autre chose. C'est pour ça, pour moi c'est important de mettre plusieurs éléments et d'essayer de parler à tout le monde, en fait. Essayer d'imaginer vraiment quels peuvent être les différents types de personnalités, les différents types de profil, quoi, qu'on peut avoir en face de soi.
C'est intéressant du coup parce que tu vois, il y a un truc qui revient souvent, et je suis le premier dans une de mes formations, elle s'appelle Construire ses offres, et il y a tout le premier module est dédié à rentrer de manière très concrète et profonde dans la psychologie des clients avec qui tu as envie de travailler, et surtout de le faire de manière précise. Et j'ai l'impression que depuis qu'on discute, toi, tu t'as souvent dit, faut penser à tout le monde. Tu me disais tout à l'heure quand tu parlais que tes accompagnements s'adressent autant à des multinationales que des indépendants. Et du coup, je suis curieux de savoir, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as la posture nécessaire pour que ça puisse parler à toute une diversité de personnes sans avoir besoin d'être hyper ciblé? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce sujet global, quoi? Parce que ça m'intrigue. Ah,
c'est un vrai sujet. Ben, je l'entends bien, hein, parce qu'on me dit souvent, mais il faut que tu te cibles plus, notamment, et tu devrais peut-être cibler plus un certain type d'entreprise, ou alors tu travailles vraiment sur tous les réseaux sociaux, mais pourquoi tu te spécialises pas sur LinkedIn, par exemple? Ça me paraît plus logique. Enfin, bon, bref. Mais j'ai pas envie, en fait. La question, c'est... La réponse, c'est ça, j'ai pas envie. En fait, faut... Mais là, pour le coup, c'est hyper personnel. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie marketing de pas me spécialiser. Souvent, je dis à mes clients de... quand on travaille les personas, par exemple, donc les cibles, on va vraiment les travailler précisément et on va essayer d'avoir des profils vraiment types. Moi aussi, j'ai des profils types dans mes personas, mais c'est des profils qui sont très différents les uns des autres. Et c'est un vrai choix. Finalement, c'est un vrai positionnement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment juste parce que j'en ai super envie et que ça m'éclate, en fait. Et je suis quelqu'un qui a très peur de l'ennui et qui a besoin de faire plein de choses très différentes. Et limite, plus ma journée elle est chargée, plus je m'éclate. Enfin, c'est un peu spécial. Mais du coup, j'ai besoin de travailler avec plein de clients différents, sur plein de projets différents. C'est comme ça aussi que je m'enrichis et que mes accompagnements et que mes formations sont enrichies aussi, parce qu'elles s'enrichissent mutuellement, en fait. C'est vraiment, c'est une énorme force pour moi, je trouve. Enfin, je me rends compte dans mon travail de travailler avec une multinationale le matin et de travailler avec un freelance l'après-midi, parce que en fait ils s'apportent mutuellement des choses, en fait. Ils s'en rendent pas compte, ouais. Alors oui, les problématiques sont pas les mêmes. D'ailleurs, les accompagnements que je propose sont différents en fonction de si je suis en face d'un freelance, en fonction, ou alors un multinational. J'ai deux offres différentes que j'affiche pas forcément sur internet, mais je travaille pas forcément pareil, mais par contre les deux s'apportent énormément, en fait. Donc, ouais, c'est ça que j'adore. Donc c'est un vrai choix.
Ouais, c'est intéressant. Mais après, du coup, je me demande aussi si à quel point est-ce que c'est possible de se faire ça en fonction du sujet que tu traites. En gros, une des raisons phares que je vois de l'importance d'être vraiment précis, comme tu le dis, dans ton persona ou ton avatar, ou peu importe le mot qu'on lui donne, client idéal, c'est une autre manière d'en parler aussi, c'est que à mon sens, tant que tu essaies de parler à tout le monde, tu t'es lisse, et on te prête pas tant attention, en fait. Parce que, tu vois, genre, dans la communication, il y a nous deux. Et si la manière dont je te parle, t'as pas l'impression d'être, que je te parle à toi, forcément, tu vas pas prêter attention et tu vas passer à la suite. Et du coup, on touche pas notre cible, finalement.
Ouais.
Mais du coup, ce que je me dis aussi, c'est peut-être que ça dépend du sujet. Tu vois, ça veut pas dire, comme tu dis, on n'est pas obligé de se super spécialiser dans une toute petite niche parce qu'on nous a dit d'être spécialisé. Enfin, bref, je pense qu'il y a plein de facteurs, en fait, qui jouent.
C'est ça. Et ça n'empêche pas de bien bosser ses cibles. J'ai des personas hyper précis. Mais ça va être des personas qui sont juste très différents les uns des autres, c'est tout. Et il y en a trois, voilà, c'est comme ça. Donc, par contre, ils sont hyper précis, ils sont hyper détaillés et je les connais par cœur. Mais malgré tout, voilà, j'ai envie d'avoir des profils différents en face de moi.
Ouais.
Mais c'est une vraie question qui fait bien à poser, parce que c'est souvent ce qu'on va me dire, quoi. C'est, pourquoi tu te spécialises pas encore plus? Ça se trouve, ça marcherait encore plus. Mais non.
Peut-être, mais effectivement, ce que j'aime bien dans ce que tu me dis, c'est finalement tout ça, c'est des questions très personnelles, en fait, dans le sens où j'ai l'impression que, évidemment, on gagne en focus, en énergie, etc., de restreindre la cible et de parler petit, parce que du coup, on peut très rapidement devenir la personne pour ce type de personne, mais tu vois, c'est une réflexion que j'ai moi aussi, parce que dans le contenu que je crée, tu vois, j'ai pas envie de faire un contenu limité à que les freelances de l'économie du savoir, par exemple, qui sont consultants, qui font que du marketing, ce genre de choses. Enfin, tu vois, moi, mon ambition, c'est j'ai envie de créer du contenu qui parle à tout indépendant en francophonie. Et je sais que pour ça, du coup, et j'ai l'impression que du coup, c'est, tu vois, la cible, elle est grande, un peu comme toi. Et je pense que du coup, en fonction de ça aussi, ça informe ta stratégie. Moi, par exemple, je sais que pour avoir cet impact-là et toucher autant de personnes, j'ai besoin d'avoir une stratégie omniprésente où je suis sur tous les réseaux, où je crée du contenu partout, où je suis là presque tous les jours. Ce qui forcément te met un poids plus grand sur le rythme de création de contenu. Mais c'est corrélé avec la vision que tu as, quoi.
Mais franchement, c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut se faire confiance parce qu'après, tu peux créer un métier qui n'existait pas forcément avant. Par exemple, j'aurais pu me spécialiser sur un réseau, admettons LinkedIn, mais j'ai toujours décidé de travailler sur tous les réseaux. Et au final, à force de faire ça, je me suis créé mon propre métier qui est que je vais accompagner des entreprises qui sont globalement paumées, qui ne savent pas trop sur quel réseau se lancer, quel levier activer. Et on va créer vraiment une vraie stratégie social media. Et donc, pour ça, j'ai besoin de bosser sur tous les réseaux. Je me suis finalement créé un métier, entre guillemets, à part entière, avec une offre à part entière qui est vraiment... moi, je vais vous aider vraiment sur les réseaux de manière vraiment globale et stratégique. Ouais. Voilà, on va parler vraiment de stratégie et de création de contenu, de création de calendriers éditoriaux. Donc, finalement, c'est un autre métier qui se crée en parallèle. Et pour autant, je vais aussi aider d'un point de vue technique, algorithme, etc. Donc, c'est... Je pense qu'il faut se faire confiance parce que, en fait, on se crée un positionnement qui est aussi très intéressant. C'est vrai que c'est la mode hein, de la niche la plus petite possible, et c'est vrai que ça fonctionne. Hein, c'est pas un mensonge, mais je pense qu'on peut aussi avoir un métier qui est plus global avec un positionnement plus large, et ça peut être tout aussi passionnant si c'est ce qu'on veut vraiment en fait. Ça peut même être encore plus passionnant.
Tout en sachant, je pense qu'effectivement, ça demande potentiellement beaucoup plus de temps pour avoir de l'attraction. Beaucoup plus d'énergie à mettre dedans aussi. Enfin, tu vas t'en parler tout à l'heure, au risque d'être à fun pendant 8 jours, peut-être.
C'est vrai. Et puis, on doit se former. Par exemple, moi, je dois me former sur tous les réseaux, du coup. Mais c'est vrai que
ça met de la complexité. Mais effectivement, c'est un choix personnel, finalement. Ouais. Mais tu vois, je veux juste reclarifier pour les gens qui écoutent, parce que j'ai fait un épisode dédié au sujet de, j'ai appelé ça l'injonction de la spécialisation. Parce que justement, je vois qu'il y a des gens qui vivent ça un peu comme une injonction. Et du coup, avec notre conversation, je vois là plusieurs approches. En fait, tu as l'approche spécialisation par ton marché ou ta spécialité de marché. Genre, comme tu disais, je me spécialise sur LinkedIn ou je me spécialise, tu vois, sur un outil ou sur un marché donné. Genre, tu pourrais dire, je suis la stratège social media des entreprises médias, tu vois, pour lier avec ton truc journalistique, tu aurais pu faire ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'il y a la spécialisation plutôt par la typologie de personne en face. Tu aurais pu dire, par exemple, je travaille qu'avec des équipes social media pour des multinationales qui gèrent plusieurs pays en même temps. Et du coup, c'est plus ce qui se passe pour la personne en face de toi, tout secteur confondu. Mais après, j'ai l'impression aussi qu'il y a plus la spécialisation, entre guillemets, ou l'expertise large sur une thématique. Ta thématique, c'est la stratégie réseaux sociaux. Ma thématique, c'est le freelancing et l'indépendance. Et quand tu cibles un truc aussi large, t'as potentiellement beaucoup plus à faire pour réussir à ressortir parce que tu te bats contre plus de personnes naturellement, quoi.
Carrément. Mais en même temps, t'as utilisé le mot complexité, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui s'éclatent dans la complexité. Moi, personnellement, je m'éclate là-dedans.
Enfin, pareil.
J'adore les choses épurées, etc. C'est pas la question, mais j'adore les choses complexes qui sont, on va dire, profondes. Enfin, voilà, des choses, plus il y a d'éléments, limite, plus je m'éclate. Donc, il y a aussi ça aussi à prendre. C'est qu'il y a certaines personnes qui adorent ça. Et donc, c'est pas
c'est clair. Complexité. Hyper intéressant. Qui aime bien quand il y a du jus de cerveau qui coule et qu'il faut...
Yes, j'adore. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est trop bien. Mais d'où la passion pour la stratégie, c'est quand on adore réfléchir, se casser la tête.
Ouais, c'est hyper intéressant. J'avais une autre question sur... Tu vois, parce que là, maintenant, j'ai l'impression que même avec ce truc super large, t'as quand même ce positionnement d'expertise dont on parle depuis le début qui est reconnu, quoi. Ce qui est déjà, du coup, un super achievement, finalement. Il y avait un autre truc où je me disais que ça y contribue, en tout cas dans ma perception, quand je regardais ton site, par exemple, c'était tarifs. Et ta stratégie tarifaire, où finalement, j'ai l'impression que... ta stratégie, c'est de rentrer avec des tarifs hyper hauts. Je disais, par exemple, sur ton site... minimum 1 200 € hors taxe la journée de formation ou les conférences, ce genre de truc. Je veux bien que tu nous parles de ça aussi. Est-ce que c'est un truc où tu t'es dit, comme j'ai envie d'être perçu comme experte, je vais mettre des tarifs hauts parce que ça joue forcément sur la perception. C'est comme le luxe, quoi, leur stratégie, c'est des prix hauts pour pas parler à tout le monde, quoi. Je suis curieux de savoir un peu ta réflexion là-dessus.
1000 euros minimum, pas 1200. Mais,
ah oui,
mais,
j'avais l'impression que c'était.
Ben en fait, oui, c'est un vrai choix, c'est un positionnement, là, pareil. L'idée, c'est de proposer quelque chose d'un peu premium. Et en fait, mon but du jeu en faisant ça, c'est d'avoir plus de temps à consacrer à mes clients. Et que quand mes clients y payent, ben voilà, je suis vraiment là et on va tout dégommer. Mais du coup, en effet, ça demande un certain budget entre guillemets. Et encore pour certaines entreprises, c'est pas grand chose. Mais il y a ce positionnement en effet que j'avais envie d'avoir aussi parce que j'avais pas envie d'avoir une multitude de clients. En fait, c'est surtout ça. Je suis pas dans voilà, je suis pas au concours de celui qui a le plus de clients, surtout pas parce que j'ai un gros programme à côté. Je suis en train de créer une formation en ligne. Je suis en train de relancer ma stratégie de contenu. Donc j'ai vraiment envie de que mes clients soient une partie de mon activité, mais pas en avoir trop d'un coup. Et donc c'est un vrai positionnement aussi pour ça. C'est un moyen entre guillemets de faire un tri pour que pour avoir un rythme vraiment qui m'intéresse moi et qui, avec lequel je suis vraiment à l'aise. Voilà, et oui, en effet, il y a aussi le côté un peu, l'image un peu premium, finalement, qui va avec la carte BFM Business, qui va avec d'autres choses comme ça, d'autres éléments que je mets en place au fur et à mesure.
Tu l'as toujours eu, ce positionnement sur tes tarifs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit, pareil, avec...
C'est venu petit à petit. c'est vraiment venu petit à petit. En fait, je me suis... mes prix ont augmenté au fur et à mesure, au tout début... J'ai commencé avec d'autres tarifs. Mince, je sais pas ce que j'ai bu, mais ça me gratte la gorge. Excuse-moi.
T'en fais pas.
Donc, j'ai commencé avec d'autres tarifs au début, et c'était un moyen aussi de tester mon activité. D'ailleurs, au tout début, j'ai même fait des choses gratuitement. Enfin, voilà, je vais pas mentir, c'est pas une bonne idée. Mais j'avais besoin de tester des choses, etc. J'avais des tarifs vraiment ridicules au tout début, vraiment ça me faisait sourire quand j'y pensais.
Bah, je pense nous tous, hein. Moi aussi je les me suis. Mois,
c'est ouais. Ça n'a aucun sens. Les premiers mois, je déclarais des chiffres d'affaires à moins de 100 euros, quoi. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je facturais? Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais occupée, donc ça me prenait du temps. Voilà. Donc non, les tarifs, ils ont évolué au fur et à mesure et c'est avec un vrai positionnement. C'est un vrai choix de positionnement en premium, en fait, tout simplement.
Parce que j'ai l'impression, la norme, surtout au début, entre guillemets, c'est cette peur de, cette peur qu'on nous dise que c'est trop cher et du coup, on est, tu vois, il y a ce truc de la course au prix le plus bas qu'on voit beaucoup avec les plateformes et tout aussi en plus. Ouais. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant justement de se dire, bah, je vais prendre le contre-pied parce que j'ai envie de, un, renvoyer cette image premium, mais aussi, comme tu le dis super bien, une fois que j'ai des clients qui signent avec moi, bah, être là pour donner presque 10 fois plus que s'ils avaient payé moins cher, quoi, parce que du coup, t'as le temps, t'as l'espace mental nécessaire pour. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire comme ça, parce que, bah, oui, il y a des gens à qui ça va parler, et oui, il y a des gens qui vont investir ce budget et vouloir travailler avec toi. Sinon, bah, la preuve, tu serais pas là, quoi, si ça marchait pas, finalement.
Oui, complètement. Mais, et puis, il faut aussi savoir que c'est, enfin, ça dépend ce que c'est, mais pour le métier du consulting, vraiment, consultant, c'est pas hyper cher non plus. C'est pas rare d'avoir des consultants qui sont à 1000 euros, 1500 euros la journée, même 2000 euros. Enfin, d'ailleurs, c'est des prix bas. Parfois, c'est 3000 euros la journée, 4000. Enfin, donc, c'est vrai que le milieu du consulting, c'est un milieu particulier aussi. C'est pas un boulot, entre guillemets, opérationnel. On est vraiment sur un métier stratégique. On va aider des entreprises sur de la stratégie, business aussi. En fait, bon, on va aider sur la stratégie réseaux sociaux pour ma part, mais en fait, on travaille aussi sur des trucs pas mal business. Donc, à partir du moment où c'est de la stratégie, forcément, ça se paye. C'est aussi ça aussi qui explique mon tarif, c'est que c'est du consulting et que c'est de la stratégie. On n'est pas sur de l'opérationnel pur. Je ne suis pas community manager. On est vraiment là pour parler stratégie et pour faire bouger les choses stratégiquement. C'est pas vraiment le même positionnement qu'un freelance community manager. Par exemple, c'est pas du tout le même métier. Donc, c'est aussi sur ça que ça va jouer. Finalement, ça se joue aussi sur ça s'explique par ce domaine-là.
Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, par exemple, à quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, j'ai envie de, moi aussi, plus prendre ce positionnement premium et qui peut-être aujourd'hui pratiquait des tarifs plus bas. À ton sens, de quoi on a besoin pour monter nos prix? Si on a besoin de quoi que ce soit, d'ailleurs.
C'est une bonne question. Alors déjà, moi, j'ai jamais fait la course du prix le plus bas. Enfin, ça m'intéresse pas. En fait, c'est faut aussi se dire, c'est comme si on est dans un magasin et qu'on a les premiers prix et qu'on a le produit en mode un peu plus premium. Où est-ce qu'on a envie de se positionner? Il y en a certains qui vont vouloir proposer du premier prix parce que ça leur plaît. Mais il y en a d'autres, ils ne seront pas forcément à l'aise avec ça. Donc déjà, il faut se poser cette question-là. Comment on a envie de se positionner vraiment? Et après, comment on peut y arriver? Je pense que c'est surtout de travailler son service. Moi, je suis très à l'aise avec mes prix parce que je sais que ça les vaut largement. Et même, j'ai des clients qui me disent que ce n'est pas très cher, que je pourrais encore augmenter mes prix, vraiment. Ouais. Donc, c'est, vous voyez, tout est relatif, en fait, sur le sujet. Et surtout, à partir du moment où vraiment on propose quelque chose de qualité, donc il faut bosser, en fait. Il faut proposer vraiment une offre qui va faire que les gens vont être à l'aise avec ce tarif-là. Donc, pour ça, en effet, il faut proposer un service vraiment sympa, quelque chose d'unique ouais. aussi. Moi, je sais que j'utilise une méthode qui est vraiment unique parce que je l'ai créée moi-même. On va pas pouvoir la trouver dans un bouquin ou ailleurs. Donc, finalement, essayer de proposer quelque chose de spécial, voilà, ça aussi, ça joue, je pense.
Ouais. L'expérience.
L'expérience. En fait, enfin, au tout début, je me serais pas positionnée comme ça. Là, au bout de 3 ans, je peux me le permettre parce que j'ai toute cette expérience-là, parce que je joue avec des cartes aussi. Qui sont importantes comme BFM et puis d'autres choses, mais il faut essayer d'avoir d'expérience et avoir le plus de choses qui pourraient justifier en fait un tarif tout simplement. Mais d'ailleurs, peu importe le tarif, on n'est même pas sur du tarif premium, là on pourra avoir cette discussion sur n'importe quel tarif finalement.
Ouais, c'est vrai. De se demander, moi c'est une question que j'aime bien poser aux gens aussi, c'est de quoi tu penses que tu as besoin pour que ton client il accepte haut la main, sans se poser de questions, ce tarif-là que tu as envie de proposer. Ou, tu vois, de quoi tu as besoin pour monter ton TJM de 100 euros par jour. Et se demander cette question, parce que j'ai l'impression qu'on ne se la pose pas, en fait. On se dit, ah non, mais je ne peux pas monter de 100 euros, mais ok, bah, si tu devais le faire demain, de quoi tu as besoin pour que ce soit facile à être accepté, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais franchement, et puis aussi, peut-être aussi aller voir ce qui se fait ailleurs. Moi, ça m'a vachement rassuré. Enfin, honnêtement, dans le milieu du consulting, je suis vraiment dans les prix. En moyenne, je crois que c'est 1500 euros la journée dans les, vraiment le consulting, le marketing et communication. Donc, en fait, j'y suis. Hein. Donc, c'est aussi aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et puis, ça permet beaucoup de se rassurer aussi, je pense. Mais il faut faire attention, il ne faut pas regarder n'importe où. Je suis désolée, mais les plateformes...
Ouais, c'est clair.
Non, c'est un peu Malte. J'ai un peu... Enfin, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, des fois, je m'en sers pour avoir des bons profils de freelance, etc. Mais les prix qu'on tire vers le bas constamment... C'est pas la bonne guerre à jouer, on va dire.
Ouais, je suis d'accord. On devrait faire l'inverse, ce serait bien ça.
mais vraiment, à aucun moment, par contre, je me suis dit, je vais jouer à la guerre du moins cher. Mais alors, vraiment pas, parce que je suis vraiment concentrée sur autre chose. Je suis plutôt en train d'être concentrée sur ce que je vais apporter au client et sur l'image que je véhicule et toutes les expériences que j'ai, en fait. Donc oui, en fait, je suis en train de travailler un positionnement premium malgré moi, mais... je suis pas du tout concentrée sur la guerre du prix plus bas. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça dans le milieu du service.
Ouais.
Plutôt que ça n'a pas vraiment de sens parce que les gens, honnêtement, si on se met à la place des clients, moi, personnellement, j'ai pas forcément envie de payer quelqu'un le moins cher possible. J'ai juste envie d'avoir le meilleur en face de moi. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de gagner un peu d'argent. Non, je veux juste avoir les meilleurs conseils. J'ai pas envie de dépenser de l'argent, même si c'est moins. Avec une personne qui va moins connaître. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de travailler la qualité et travailler son métier plutôt que de faire une fixation de tarif.
Je me pose une question, du coup, j'ai envie de jouer avec toi, Isabelle. Je me demande si tu devais... Genre, c'est quoi pour toi le prochain pas pour aller un cran plus haut dans ton positionnement d'experte sur ton sujet? Genre, qu'est-ce que tu ferais si je te disais il y a une marche au-dessus? À ton avis, comment tu y accèdes? Par rapport à ce que tu as déjà?
En soi, en vrai, il y en a plein. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. La première chose auquel je pense, enfin, j'en ai plusieurs. Déjà, clairement, je vais me lancer en ligne. Donc, moi, je trouve que pour aller encore plus haut d'un point de vue positionnement aussi pareil premium, c'est me faire connaître toujours plus sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, en ce moment, là, je bûche beaucoup là-dessus. Je suis encore en mode sous-marin. J'ai pas encore publié, mais tout est en train de se préparer. Donc, pour moi, se faire connaître, augmenter la notoriété, je pense que ça joue.
Donc, plus communauté plus grande, quoi.
Communauté, ouais, plus grande, entre guillemets, et aussi plus forte. plus okay. d'engagement, etc. Et puis, et aussi, par exemple, écrire un livre. Ça, je sais très bien que ça marche très, très bien. Donc, c'est une idée que j'ai aussi en tête, clairement. Lancer des formations en ligne aussi. Voilà, comme on est sur ce marché-là aussi à fond, clairement, je sais que ça va jouer beaucoup aussi. Donner toujours plus de conférences. Enfin, voilà, il y a plein de choses encore. Franchement, je suis contente.
Donc, ce serait continuer de développer les arguments d'autorité que tu as déjà. Et aussi la partie, parce que ouais, j'imagine que la formation en ligne, ça contribue. Si on peut afficher des chiffres du genre « j'ai formé tant de personnes à telle compétence », clairement, ça joue aussi, quoi.
Ben, je pense, ouais. Ouais, c'est le but. Et puis oui, comme tu l'as dit, renforcer, je pense que je vais vraiment renforcer la stratégie que j'ai déjà depuis quelques années, parce que je vois que ça fonctionne, notamment les réseaux sociaux, donc je vais renforcer tout ça. Et en effet, utiliser d'autres éléments pour encore aller plus haut, quoi.
On va arriver sur... Merci pour ta réponse, du coup, pour le jeu. Mais je voulais illustrer parce que, tu vois, je pense que c'est une question intéressante pour les gens qui nous écoutent aussi, de se dire, si je veux aller au prochain pas de m'ancrer sur mon positionnement, sur mon sujet, sur mon domaine par rapport à ma cible, c'est quoi les arguments d'autorité qu'il faut que je développe ? Tu vois, moi, par exemple, si je me pose la question à moi-même, bah, je pense que ça pourrait passer par développer plus... l'auditoire de ce podcast plus loin, ma visibilité sur Instagram, qui est un canal sur lequel je mets pas mal de valeur en ce moment, plus de personnes formées dans mes programmes, ce genre de choses. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand t'as de la clarté là-dessus, bah, ça te permet aussi de clarifier tes actions par rapport à, ok, bah, si je veux aller un cran plus loin dans mon positionnement, potentiellement monter mes prix avec ça, etc., c'est quoi les prochaines marches?
Mais c'est hyper important. D'ailleurs, je travaillais sur une vidéo ce matin sur le sujet, sur l'idée de vraiment d'avoir une vision sur un an, par exemple. Mais il faut qu'elle soit précise, enfin, il faut qu'elle soit claire, en tout cas. Pour moi, c'est hyper important. C'est pareil, sur la partie réseaux sociaux, je vais relancer ma chaîne YouTube et vraiment la lancer pour de bon cette fois. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête et d'avoir une clarté et de savoir pourquoi on fait les choses. Et voilà, ouais, c'est exactement ce que tu disais. Tu sais déjà exactement où tu vas. Tu parles même de choses très précises comme Instagram. Tu vois, tu parles pas que réseaux sociaux. Donc c'est hyper important d'avoir des idées précises, quoi.
Ouais, c'est clair.
La vision.
On va arriver sur les questions rituelles de fin, du coup, pour clore cette super discussion. Et la première, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue dans ton aventure indépendante et comment tu l'as surmontée?
Du coup, j'ai réfléchi à cette question hier, je me suis dit, quelle est ma plus grosse difficulté? Et en fait, je me suis dit, il y a un truc qui lie, entre guillemets, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, c'est de faire face à... c'est très profond ce que je veux dire. De faire face à soi-même. Parce qu'en fait, quand t'es entrepreneur, tu peux pas te cacher derrière quelqu'un. Tu sais, quand t'es salarié, tu peux te cacher derrière, je sais pas, ton responsable.
C'est la faute à machin.
Ouais. Voilà, ton manager, ou même l'entreprise en général, enfin voilà, ou la société. Hein. Mais quand t'es entrepreneur, là, tu peux pas te cacher. Donc, tu fais face à tes freins, qui sont aussi tes freins personnels, souvent, des freins de ta personnalité, finalement. Et donc, tu fais face à tes freins et il faut que tu les dépasses. Et je pense que ma plus grosse difficulté, entre guillemets, ça a été ça. Donc, ça a été un vrai travail de fond. Sur des trucs, par exemple, un manque de confiance en moi. Au début, je manquais de confiance en moi pas mal, et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, je me mettais une pression d'enfer aussi, clairement. Bon, ça, je travaille encore dessus. je savais pas dire non aussi. Donc ça, c'était quelque chose, un défaut aussi personnel, mais j'arrivais pas à dire non. Et donc, du coup, j'avais un rythme infernal. Ça, du coup, ça va mieux. Donc ça, je l'ai dépassé. Ça, c'est très cool. Il a vraiment fallu faire un vrai tri et se faire vraiment violence et se dire ok, on va se calmer et même s'il y a des choses qui m'éclatent, il faut que je les arrête, parce que quand je définis mes objectifs sur un an, eh ben en fait il y a des choses qui n'apparaissent pas et pourtant qui occupent toutes mes journées, donc il y a un problème. Donc voilà, savoir dire non et toujours être aligné avec ces objectifs justement qu'on se fixe, pour moi c'est hyper important. Donc j'ai l'impression que ma plus grosse difficulté finalement c'était ça a été de faire face à des défauts que j'avais, même dans ma vie de tous les jours, de faire face à moi-même. Et vraiment, de faire un travail sur soi, c'est compliqué. Je pense que c'est pas simple. Je trouve que c'est
hyper intéressant.
Plus difficile que de faire des trucs très concrets, comme je sais pas, ouais. Travailler. voilà, faire un vrai travail, on se dit, bon, bah là, par contre, je sais pas, le fait que tu te mettes une pression d'enfer, ça te pourrit la vie ou tu vas te calmer, ça, c'est pas facile à faire évoluer. Mmh. Et en même temps, c'est ça que je trouve passionnant avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est lié pour moi au développement personnel, à la psychologie, à tout ça. Et j'adore, quoi. Donc, c'est génial. Il faut vraiment pas oublier que si jamais on arrive à un plafond de verre qu'on n'arrive pas à péter, c'est que peut-être on a un problème aussi avec des freins personnels et qu'il faut faire un travail sur soi. Et tant qu'on n'aura pas fait un travail sur soi, l'entreprise ne pourra pas aller plus haut. En fait, il faut vraiment faire un travail sur soi plus sur l'entreprise. Sinon, on atteint un plafond de verre et on ne bouge pas, en fait.
C'est clair. Ouais, mais j'adore cette vision. Je te rejoins de ouf là-dessus, dans le sens où... tu vois, moi, les gens qui écoutent ce podcast le savent, il y a une grande conviction que j'ai, c'est que quand t'es indépendant, comme ton entreprise, c'est toi la personne, et tu l'expliques super bien avec ce truc de plafond de verre, tout est lié, en fait. On peut pas avoir ce truc que j'ai l'impression beaucoup de gens veulent, la vie pro d'un côté, dans un tiroir, tu le fermes à 19h, et ensuite t'ouvres l'autre, qui est la vie perso, et t'as ton autre vie. C'est pas séparé, parce que ben on est un seul être humain, et du coup t'as tout qui est lié derrière, tout qui se recoupe, tout qui a un impact les uns sur les autres, donc clairement ça joue sur tout ça, quoi. Et du coup je me dis on peut pas faire autrement que de devoir travailler sur nous, l'être humain qu'on est, quand on développe son entreprise indépendante. Il y a pas d'autre choix, quoi.
Franchement, on n'a pas le choix, et c'est ça qui est super intéressant aussi. Donc faut pas le prendre mal, au contraire, c'est ça qui est passionnant, je trouve.
C'est clair, c'est clair. Et merci du coup pour cette réponse. Ça informe ta vision des choses que je partage, donc c'est trop cool. Celle d'après, c'est si t'étais face à Isabelle, c'est son premier jour en freelance, donc tu viens tout juste de te lancer. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais ?
Que ça va bien se passer, donc déjà on peut se calmer, hein. je dirais allez, déstresse un peu, à partir du moment où on est vraiment aligné, en fait, et qu'on travaille et qu'on reste focus, ça se passe bien. Donc je lui dirais surtout de croire un peu plus en elle, parce que je me rappelle que j'étais très angoissée quand même. Je savais pas trop où j'allais, et en même temps j'étais hyper excitée, et en même temps je savais pas trop si ça allait fonctionner, évidemment. Donc voilà, je dirais aussi de pas trop écouter les autres, parce que il y a des super conseils à prendre, mais il y a aussi des choses négatives qui sont vraiment n'importe quoi. Donc faut savoir aussi se faire confiance et faire confiance en son instinct, vraiment. Et puis l'organisation, c'est cool aussi, ça je lui dirais. J'étais moins organisée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui je suis hyper organisée, j'adore l'organisation, c'est trop bien, ça me rassure vachement et tout. J'adore la planification, et c'est vraiment cool, et ça permet vraiment de décharger sa charge mentale aussi, et d'avoir une bonne vision. Donc voilà, de garder ces éléments-là, et puis surtout qu'avec une bonne discipline et du travail, on y arrive. Donc voilà, faut rester focus, et puis respirer un peu, voilà, se mettre un peu moins de pression. Ouais. Tout va bien.
Je pense que je lui dirais ça, moi aussi, à Thomas qui démarre. L'organisation, ouais. Mec. C'est trop bien, c'est royal. Focus-toi dessus.
Mais vraiment, franchement, ça change tout. Mais en fait, ça nous détend. Enfin, c'est en termes de charge mentale, ça va beaucoup. Après, puis on avance.
Ouais, c'est clair. Et j'ai l'impression que ça professionnalise un peu les choses, tu vois. Moi, je réfléchis beaucoup en ce moment à c'est un truc dont parle beaucoup Seth Godin aussi, il me semble, la différence entre amateur et professionnel. Ou en gros, l'amateur, il suit que les trucs qui l'intéressent au moment, il est que dans de l'excitation du moment présent. Et le professionnel, c'est même les jours où tu n'y es pas, tu délivres ce que tu es là pour délivrer, et tu te mets à ton bureau, et tu sais ce que tu dois faire, et tu vas au bout, et tu t'organises pour toujours délivrer le meilleur, quoi. Et il entend ça dans le sens, le professionnalisme, de vouloir tellement bien faire pour tes clients que tu travailles même sur les choses... qui te font pas forcément envie, comme l'organisation, etc., ou qui sont pas naturels pour toi, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant, cette réflexion.
Mais vraiment. Et comme tu le dis, en fait, quand t'es concentré sur, par exemple, tes clients, quand t'es concentré sur pourquoi tu fais les choses, ça va très bien, en fait, hein. Et c'est pour ça que même ta question sur les difficultés, elle n'est pas été hyper simple, la question que tu m'as posée tout à l'heure, parce que, en fait, quand tu t'éclates et que vraiment t'es passionné par ce que tu fais et t'es aligné, Alors oui, t'en as plein des difficultés en vrai, hein, c'est hyper compliqué en vrai. Tout le monde ne peut pas se lancer en freelance, enfin, faut vraiment le vouloir quand même, hein. faut avoir les tripes entre guillemets, faut être bien motivé, mais les difficultés elles passent bien quand même parce que t'es passionné quoi. Donc et pareil, ouais. Si t'es concentré sur tes clients, les difficultés elles passeront beaucoup plus facilement.
Et t'as presque même, tu vois, moi, les difficultés, j'ai presque pas l'impression que ça en est finalement, alors que quand tu regardes en arrière, des fois, tu te dis, ah ouais, putain, ça, c'était chaud quand même. Tu vois, genre, je pense, moi, une des difficultés, c'est le planning trop chargé, quoi. Mais je le vis pas tant comme une difficulté à l'instant, enfin, en post-rationalisation, à l'instant T, t'es dedans, t'es dans le jus, et t'es là, fouah.
C'est après, quand tu finis à fond, que
exactement, tu te rends compte, ah oui, bon, là, j'ai peut-être un petit peu abusé.
Tu peux même pas le dire parce que t'as pas de voix, mais en tout cas, tu le penses.
Exactement, fort. Tu peux le penser 25 millions de fois, par contre.
C'est ça, toute seule dans ton coin.
Est-ce que je finis tous les épisodes de par une question qu'on pose aux auditeurs? Et du coup, Isabelle, c'est quoi la question que t'as envie de poser cette semaine aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps de réflexion sur leur activité et sur eux en tant que personne aussi?
Mais du coup, j'ai pensé à une question un peu plus avec ma casquette métier. Et je me suis dit, la question que je pourrais leur poser, c'est est-ce que tu penses que tu pourrais gagner des clients en publiant sur les réseaux sociaux? Et si oui, combien de temps est-ce que tu es prêt à y consacrer par semaine? Et à partir du moment où tu as une réponse, tu le mets dans ton agenda, tu te mets un petit... on parlait d'agenda. Tu te mets une petite séance comme ça, réseaux sociaux... par semaine ou par jour, je ne sais pas, et tu le fais, voilà. Et tu le fais, voilà ce que je dirais.
Tu le fais.
Et tu le fais, tu t'y tiens, ça va bien se passer, t'inquiète pas.
C'est
voilà,
cool.
Voilà, je vais aller sur les réseaux sociaux, évidemment.
C'est cool. Tu vois, c'est chouette parce que dans ma perception, j'ai l'impression que c'est un truc que, ok, c'est bon, tout le monde a intégré, etc., etc., mais je pense que c'est biaisé par l'entourage que j'ai, que mon entourage, c'est des créateurs de contenu, tu vois, et les gens avec qui je discute le plus au quotidien, c'est des gens qui sont dans la même dynamique de moi que de créer, tu vois. Mais clairement, je pense que, ouais, il y a plein de personnes qui osent pas, qui ont peur, qui ont... T'en parlais dans tes stories récemment de tout ce qui vient quand tu te dis, ok, je vais me remettre à avoir une vraie strat et vraiment poster et tout. Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Donc, c'est cool que tu poses cette question-là.
Mais vraiment, c'est la majorité des freelances. Hein. La majorité des freelances ne font rien sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une réalité. Mais, et pourtant, il y a tellement de choses à faire et ça peut tellement nous apporter. Mais c'est vrai que là, on est un peu dans notre monde de stratégie de contenu, mais il faut oser aussi franchir le pas. Et c'est pas toujours simple. Ouais. C'est normal aussi d'avoir peur, ceux qui ont peur de publier, qui ont peur de dire une bêtise, de faire un impair, notamment sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau qui fait peur. En fait, c'est tout à fait normal, quoi. Ceux qui ont peur aussi de se montrer face caméra, en fait, on passe tous par là. Sauf que toi aussi, la première fois que tu t'es vu en vidéo, moi, la première fois que je me suis vu en vidéo, c'était très, très compliqué. Je me suis dit, jamais je vais faire ça.
Et après, tu commences à lâcher un peu tout ça et il sort des trucs où tu te dis, oh putain, c'était un peu trop quand même.
Mais voilà, mais c'est ça. Et en fait, un vrai conseil aussi quand on a trop peur, c'est d'arrêter de se concentrer sur sa peur et sur soi, et plutôt se concentrer sur ce qu'on a envie de délivrer comme message. Et là, vraiment,
carrément,
ça se déploie.
Carrément. Ouais. Ça fait écho à une de mes phrases préférées sur le marketing que j'avais sortie dans un épisode et qui a marqué beaucoup de gens, j'ai l'impression. Je disais, ne pas faire de marketing, c'est être égoïste, parce que tu te concentres que sur ta peur de t'exprimer, et pas sur toutes les personnes qui vont pas pouvoir travailler avec toi et pas pouvoir avoir accès à ton savoir et du coup peut-être pas développer leur projet, tout ça parce que tu avais peur de te dire je peux faire du marketing ou je peux prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et j'entends la même chose que toi, quoi. T'as peur de te montrer, en fait c'est juste toi qui regardes ton nombril et qui est égoïste et qui te concentre pas sur ce que tu pourrais changer pour tes clients, quoi.
C'est ça, c'est violent, mais c'est ça.
C'est la claque qu'il leur fallait. Tiens.
Moi, je suis pas là, et là, je vais relancer ma chaîne YouTube. Je suis comme ça, je suis pas bien du tout non plus, hein, mais je me dis, allez, on s'en fiche. Peut-être que mon message, il va parler à une personne, et ben, on y va, alors, du coup.
Hein. Ouais, j'ai fait mon taf, quoi. Trop bien. Voilà. Super. Merci, Isabelle. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi ou suivre ton travail et voir ce que tu fais?
Ben, trois possibilités. Sur LinkedIn, où je partage pas mal de conseils social media, vraiment réseaux sociaux. Sur Instagram, où je partage mon quotidien d'entrepreneur. ou sur YouTube où j'arrive et où faut me soutenir. Donc n'hésitez pas à taper Isabelle Coulot dans la barre de recherche et voilà, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Me laissez pas toute seule.
Trop cool. On viendra te soutenir avec grand plaisir. Je serai là.
Merci,
aussi. Trop cool. Merci beaucoup Isabelle pour cette discussion. C'était vraiment cool et j'ai hâte de voir la suite. Du coup, la prochaine marche.
Ah ouais, moi aussi j'ai hâte. J'ai hâte de voir.
Ça va être cool. Ouais, ça va être chouette. Merci. Ciao ciao.
J'ai adoré cette discussion avec Isabelle parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a très bien décortiqué ce positionnement d'expert et d'expertise pour un indépendant, pour voir que c'est à la fois un positionnement comme un autre, et en même temps, c'est une destination à laquelle on arrive après beaucoup d'autres éléments. Effectivement, on ne devient pas forcément expert du jour au lendemain, mais par contre, si on souhaite se positionner en tant que tel, il y a des choses qu'on peut faire pour construire ça, dans le temps. Et avoir un vrai plan pour le faire. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à décortiquer les prochains pas pour toi, pour asseoir ton expertise et ton positionnement d'expert si c'est ton choix, ou tout simplement à réfléchir différemment à la manière dont tu te présentes toi et ton activité, et peut-être à réfléchir à tes propres arguments d'autorité et de légitimité pour ton métier et ce que toi tu proposes à tes clients. Pour aller plus loin sur ce sujet, mais toutes les autres choses, tous les domaines de vie de ton activité d'indépendante pour progresser sur tout ça, je t'invite vraiment à rejoindre les quelques milliers d'indépendants qui lisent chaque semaine mes newsletters. Pour t'inscrire, rends-toi sur thomasburbidge.com/newsletter et je t'enverrai même des ressources dans le premier email pour déjà t'accompagner et t'aider sur certaines choses. En tout cas, j'ai vraiment hâte de te retrouver à cet espace par mail, mais d'ici là, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.